Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au téléphone Nina Michelet. Bonjour.
Bonjour.
Nina Michelet, vous êtes artisan céramiste et vous avez aussi donc ce lieu qui s'intitule l'atelier Bolinette.
Oui, c'est ça. Donc moi, je suis potière et mon atelier s'appelle Bolinette. Je suis située à Austin, dans la Drôme. Et je co-organise un marché de potiers qui aura lieu au Chalutier, un tiers-lieu rural et culturel qui est à la Baume d'Austin.
Donc ce 28 septembre aura lieu ce salon ou cette exposition de potiers nombre d'une vingtaine, je crois.
Tout à fait, oui. On sera 20 exposants. On expose de 10h à 18h, donc toute la journée. Dans le parc du tiers-lieu. Il y aura une buvette, des food trucks, ça sera une très chouette ambiance. C'est que des potiers de la région qu'on a sélectionnés, qui ont tous une production très différente et hyper chouette, qualitative. Donc ça va être un beau moment, une belle balade à faire et l'occasion de trouver plein de pièces originales.
Alors, Bolinette, pour vous, c'est une activité à plein temps de création.
Oui, c'est ça.
Vous proposez principalement de la poterie ou alors il y a d'autres...
Voilà, je travaille le grès, je fabrique essentiellement des pièces utilitaires et décoratives, de la vaisselle, des vases, des objets du quotidien que je fabrique entièrement dans mon atelier. Je travaille avec des émaux plutôt dans les couleurs bleues, vertes, un peu inspirées par les rivières drômoises.
Il y a la poterie, certes, mais il y a aussi le côté artistique. Est-ce que ça aussi, il y a une prise en compte de cette présence dans les étalages qui seront présents ?
Oui, donc la sélection a été faite pour avoir une grande variété de propositions. Donc on a choisi des techniques différentes, du grès, de la faïence, de la porcelaine. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ça permet vraiment d'avoir des rendus qui n'ont rien à voir. Et chaque artisan a sa patte, évidemment. Donc on a choisi des univers qui sont assez différents les uns des autres et qui se complètent bien, afin que tout le monde y trouve son coup de cœur.
Comment s'établit ce marché ? C'est la première fois que vous l'organisez ?
Oui, la Drôme, c'est une terre historique de potiers, hein, donc on a quand même des très beaux marchés de potiers qui ont lieu toute l'année, que ce soit Dieu-le-Fi, la Bégude de Mazan et j'en passe. Il y en a partout dans la région, partout en France d'ailleurs. Voilà, et nous, dans le secteur de Romans, on n'avait pas trop de propositions. Or, on est assez nombreux à travailler dans ce coin-là en tant que céramiste. Donc, on a eu envie de proposer notre propre marché. Fin septembre, à la fin de début d'automne, avec, on l'espère, un beau temps pour nous accompagner.
Et cette journée débute à quelle heure ?
Ça aura lieu de 10h à 18h.
Avec quelques interventions artistiques ou de démonstrations autour de ces stands ?
On va voir si on arrive à organiser des petites animations en parallèle de la journée. Dans tous les cas, il y aura à manger, à boire sur place. On installera également un stand qui s'appelle le Bol de la Solidarité. C'est une association professionnelle des potiers d'Auvergne-Rhône-Alpes qui organise ça sur les marchés volontaires. C'est un tout petit stand sur lequel on va vendre des petits bols provenant de tous les potiers de la région. Et le chiffre d'affaires qui est récupéré sur ce stand sert à une cagnotte qui sert à aider les collègues en difficulté qui peuvent avoir des années un peu difficiles pour des événements de vie. Voilà, donc c'est une caisse solidaire pour soutenir les potiers. Donc on invite les visiteurs à venir regarder ce stand et voir s'ils y trouvent une pièce qui leur plaît bien et qui leur permettrait de participer à cette caisse solidaire.
Il y a aussi ce lieu, le chalutier, un
Oui, le
tiers-lieu.
chalutier, donc c'est un tiers-lieu rural qui est installé dans une ancienne maison de convalescence assez gigantesque que les gens du coin connaissent très bien parce qu'elle a été ouverte pendant de nombreuses années. Et donc ce lieu a été réinvesti à la fermeture de la maison de la convalescence par des artisans, des artistes, des entreprises diverses, et pour organiser des ateliers pour travailler. Des lieux d'expo, des voilà, un lieu un peu hybride qui accueille plein d'événements. La fin août, on a eu un chouette festival de musique avec des spectacles et un marché d'artisanat l'après-midi. Voilà, donc c'est ce genre d'événement qui est ouvert à tous. L'idée, c'est de créer du lien, de créer une émulation culturelle et artisanale locale dans un lieu qui, sinon, tomberait en désuétude complète. Donc, c'est vraiment un très chouette endroit qui est animé par tous les gens qui travaillent dedans tous les jours.
Avec un espace vert autour.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est des grands bâtiments qui sont situés dans un parc immense. Et nous, le marché de Potier, on l'organise dans la cour qui est entre les bâtiments, qui est une cour très chouette arborée avec une petite placette, une fontaine. Ça fait vraiment petit village. Voilà, donc c'est un endroit où ont lieu des guinguettes estivales tous les mercredis soirs avec de la musique, des pizzas, etc. Voilà, donc c'est toujours animé et nous on organise cet événement particulier. Voilà, et on espère qu'on amènera plein de gens pour venir voir tout ça parce que ça va être vraiment très beau.
Belinette émane de ce nom, hein, de cet objet, donc en céramique, une petite molée, donc de 6 cm.
C'est ça.
Ouais. C'est une spécialité plutôt étendue en France, cet objet, ou alors il y a des particularités régionales plutôt?
Sur le bol.
Oui, sur les bolettes, ou le bol, la bolée, c'est, on peut voir ça
Ah oui,
en.
moi c'était
Non.
plus en référence à une blague dans un film et le fait que le bol et les petits bols, donc les bolinettes. C'est vraiment l'objet de base de tous les potiers. Donc voilà, ça c'était comme ça qu'est né le nom de mon atelier, mais en vérité, je fais plein d'autres objets au-delà du bol.
Pour organiser ce salon de poterie, cela prend un certain temps pour contacter et à lancer un appel aussi à participation. Ça vous a pris quelques mois quand même pour mettre en place
Oui,
ce.
bah c'est un sujet dont on parle depuis l'année dernière déjà. On a lancé les candidatures au printemps et on a eu beaucoup de candidatures. Donc, il a fallu faire une sélection qui soit assez cohérente d'un point de vue de la globalité du marché. Voilà, et là, notre activité du moment, c'est de communiquer dessus. Donc, on va commencer l'affichage, voilà, autour du secteur du marché, en contact. La presse également pour pouvoir faire parler de l'événement.
Cette édition donc accueille une vingtaine d'artisans créateurs potiers. Vous tendrez peut-être à le développer en nombre aussi pour l'année prochaine.
Donc nous, notre souhait, hein, c'est d'en faire un rendez-vous annuel, effectivement. Après, en termes de nombre d'exposants, on verra comment cette édition se présente. Le but aussi, c'est de rester à une échelle qui soit assez, voilà, qui soit à notre échelle à nous en termes de capacité d'organisation et en termes de public à accueillir également. Donc, on verra si ça augmente ou pas au fur et à mesure. En tout cas, pour nous, une vingtaine d'exposants, ça nous permet d'avoir une belle diversité tout en étant. Voilà, sans être dans l'excès de propositions. Et donc, voilà, d'avoir vraiment pile poil ce qu'il faut pour que les gens découvrent la céramique, pour s'ils connaissent pas trop ou pour que les amateurs y trouvent leur compte.
Nina Michelet, votre profession donc de potière, céramiste, ça vous a pris très tôt ou alors vous y êtes mis par rencontre ou coup de foudre peut-être?
Mon activité professionnelle a démarré assez tardivement puisque j'ai lancé mon atelier il y a 4 ans. Seulement, donc j'ai une autre vie professionnelle avant. En revanche, la terre, c'est vraiment une matière que je travaille depuis que je suis petite. J'avais déjà un mini tour pour enfants quand j'étais petite. Et après, pendant toute mon enfance, je prenais des cours d'art plastique où je maniais pas mal la terre. Et pendant mes études supérieures de design, j'ai aussi beaucoup travaillé avec la céramique quand j'en ai eu l'occasion. Donc c'est quelque chose qui a toujours été présent en fil rouge et je me suis lancée il y a quelques années quand j'en ai eu l'opportunité.
Les personnes qui viennent vous voir ou acheter ont cette passion aussi de la céramique. Est-ce qu'elle est très partagée dans le public ?
Ah oui, c'est quand même un matériau qui est déjà qui est extrêmement polyvalent. On peut fabriquer des choses très très diverses et même pour un seul objet, il y aura autant de variations que de potiers qui existent. Donc c'est assez infini comme possibilité. Et c'est une matière qui a eu un regain d'intérêt depuis une dizaine d'années. Donc le public est assez touché par cette matière. Donc oui, généralement, on arrive quand même à rencontrer des gens qui sont sensibles à la céramique.
Et d'autant qu'on trouve ou on a découvert énormément de céramique depuis la fin des temps. Donc il y a une durée dans le temps, en tout cas, de ces objets.
Oui, c'est un art qui est millénaire. Hein, oui. Et puis, une fois que la terre est cuite, elle est éternelle. Donc c'est pour ça aussi qu'on retrouve des vestiges extrêmement vieux de poterie. Donc il y a des techniques qui n'ont pas tellement changé depuis des centaines d'années, d'autres qui évoluent avec les technologies, les outils qui changent aussi, ça change un peu les pratiques, mais voilà, au fond, effectivement, nous les potiers de 2025, on est dans la continuité de toute une histoire qui est très longue et très riche.
Alors, il existe des objets récurrents, hein, les bols, des tasses, des assiettes, des plats aussi. Il y a aussi cette part d'inventivité de chaque artisan pour amener une forme, des couleurs, suggérer aussi.
Oui, c'est ça. C'est qu'au final, en partant d'un objet très simple, on y trouve quand même la possibilité d'exprimer notre créativité. Donc je pense que c'est ce qui fait que ça attire autant de gens qui ont envie de pratiquer la poterie, que ça soit à titre professionnel ou à titre loisir. Hein. On a énormément de personnes qui ont envie de toucher à cette matière et de s'exprimer par ce biais-là. Parce que vraiment, on peut partir, les possibilités sont infinies.
Une activité qui vous conforte dans votre quotidien ou alors il doit y avoir une nécessité d'à côté peut-être pour pouvoir vivre ?
Là pour l'instant, en parallèle de ma production vendue, je donne des cours, je propose des stages. Donc ça reste complètement dans cette matière-là et dans mon atelier. Mais ça me permet de compléter, effectivement, ça prend quelques années avant d'asseoir un atelier qui tourne bien et qui soit viable. Donc, on invente toutes sortes de moyens d'y arriver.
Ces dernières années, il y a eu cet impact économique et notamment l'augmentation de l'énergie. Est-ce que cela s'est senti aussi dans votre activité ?
Oui, c'est hyper important de le prendre en compte, effectivement, de calculer les coûts de revient. Ça nous permet de proposer un prix qui est juste, qui n'est pas toujours compris par un certain public qui n'a pas forcément toutes les informations sur comment se passe la fabrication d'un objet. Mais du coup, c'est à nous de communiquer sur toutes les étapes de fabrication, tout ce que ça implique en termes de matériaux, d'énergie, etc. Voilà, et de communiquer là-dessus, ça permet de, Tout simplement de proposer un prix qui soit juste pour nous et pour le client en face.
Pour vous joindre, comment procède-t-on au niveau de ce festival? Comment s'y informer?
Alors, on a une adresse mail à laquelle on peut donner des informations et nous, donc, on va lancer notre campagne d'affichage prochainement. Donc, voilà, vous pouvez retrouver les informations placardées un peu partout courant septembre. Donc, je vous donne l'adresse mail de contact, c'est potier au pluriel point au point chalut @mailo.com.
C'est juste pour le notifier sur le site. Et puis, vous avez aussi une page Instagram, accessiblement réduite. Donc,
Voilà,
il faut
accessible aux
être
personnes
inscrit
qui sont.
ou se
Voilà, tout à
connecter
fait.
pour y accéder, qui s'intitule donc Bolinette céramique, avec un tiret du 8 entre les deux mots.
Bah ça, c'est ma page, voilà, c'est ma page perso et on a une page Instagram dédiée au marché.
Et on peut indiquer l'adresse aussi, le nom
Oui,
de cette
tout à
page.
fait. Je vais vous dire. C'est marché.potier.au.chalutier. Marché potier au chalutier.
Au chalutier.
Voilà, c'est ça.
Très bien.
Et sur laquelle, voilà, donc cette page, elle nous sert à présenter tous les potiers qui vont être présents lors de
Ah,
cette
mais c'est
édition.
bien ça. Donc, effectivement, il y a quand même cette nécessité d'être inscrit hein, sur le compte Instagram pour accéder aux images. Parce que
Oui, voilà. Bah, c'est vrai que démarrer une page Instagram, ça a le mérite d'être extrêmement facile et rapide pour nous.
Ouais.
Monter un site internet, c'est une toute autre logistique.
Oui. Après, je vois d'autres liens avec votre page Instagram. La Plume Artisane, ça, c'est un
oui,
collectif.
ça, c'est les boutiques dans lesquelles j'expose.
D'accord. D'ailleurs, justement, je voudrais juste aborder, je remontrerai un peu ça. La diffusion ou la distribution de vos objets, il y a ces marchés, hein, mais aussi des boutiques. Comment arrivez-vous à vendre vos créations?
Donc moi, je suis impliquée dans plusieurs boutiques collectives d'artisanat local, l'Artisanoscope à Romans, à la Plume Artisane à Saint-Antoine-l'Abbaye notamment. Donc le principe d'une boutique collective, c'est qu'on se réunit en association pour occuper un local avec plusieurs artisans dedans et on se relaie pour tenir la boutique en faisant des permanences. Et ça nous permet du coup d'avoir une boutique qui soit ouverte tous les jours, accessible au public, et nous d'avoir le temps quand même d'être dans nos ateliers respectifs.
C'est aussi le fait d'avoir une boutique collective. C'est un nouveau mode aussi de vente hein, qui
Oui, ça se
s'étend de
fait
plus en
beaucoup,
plus.
hein.
Dans le Diwa, nous en avons pas mal également. C'est un nouveau genre d'économie, je pense.
Oui, bah c'est vrai que ça nous permet, nous, en tant qu'artisans, de disposer d'une vitrine qui est plus grande et plus belle que si on était seul, et surtout bah, de ne pas être physiquement présent dans la boutique tous les jours. Donc ça, c'est important pour nous parce qu'on a besoin de temps pour fabriquer ce qu'on vend. Et ce temps-là, bah, on ne peut pas le passer en boutique. Donc la boutique collective, ça répond très bien à cet impératif-là. Et en plus, ça permet d'avoir une proposition qui soit assez large pour attirer des publics avec des envies un peu différentes, voilà, qui découvrent le travail des uns des autres.
Lors de votre activité de tournage ou de préparation, vous êtes dans le silence pour travailler ou alors vous avez une ambiance musicale?
Moi, j'écoute énormément de podcasts quand je travaille. Voilà, donc j'écoute des podcasts sur plein de sujets. En ce moment, j'écoute les baladeurs sur des récits d'aventure. Donc ça m'emmène dans plein d'endroits différents.
Eh bien, merci aussi de votre acceptation de participer à cette émission et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Philips cassette recorder. Philips N2218 automatic machine. 1974 mono cassette recorder and manual. Better than Clagghead's or Space Hopper or Blue Rally Chopper even. It was a tall Christmas present and I loved it from the off. Nights running home from school, taping abstract random songs I liked off the radio, like Thin Lizzy's Whiskey in the Jar and Focus's Sylvia. Listening, intently listening, trying to pick apart the magic contained within the grooves, knowing even then that they promised some kind of key to escape, if I could only somehow decode the magic and construct it in my own manner. This was a futile but charmed winter preoccupation, running as late into the night as this young lad could possibly go. Then in spring, I was up at 4 a.m. to record the dawn chorus, sticking the recorder out the window to capture blackbird, robin and song thrush, blue tit and wren. Now there wasn't much other bird life at that time in St. Aidan's Close, though just after the new year we had been grazed with the sudden vivid presence of a brood of waxwings who came for the berries in the hedge at the bottom of our garden and suddenly brought a flash of fire into our lives. I can't say what kind of sound they made it. The batteries on the cassette recorder had run down, didn't have the money or inclination to replace them at that precise moment. I did have the cassette recorder at hand when we burnt down the gymnasium at St. Anselm's School that summer, capturing the crackle of flame and the shattering of glass and the clattering sound of the metal segs in our brogues and riders striking the concrete pavement as we did a runner before the fire engines got there, but cleverly in a primitive manner overdubbed the sirens on later using two other similar Philips cassette recorders. We recorded the police officers when they arrived at the door to question suspects, and me and Rob Grant would use this material for a play we were writing in a newly discovered Burroughs meets Beckett, because we were in a Bowie method of cut-up. I remember how the tape would tangle and snap eventually, and we would spend long autumn hours re-spooling using pencil, straightening, gluing back together with sister's nail varnish. It was a great tool, this cassette recorder. 1 year later, it was battered, but it was still working. We recorded ourselves at midnight mass at St. Cuthbert's Church, being surreptitiously sick into the collection box and singing out of tune to the hymns on offer. We had recently realised we would never be good Catholics. That particular flame just was not there. We recorded the Smiths supporting the Clash, though. That was a new flame burning.
Disaster, capitalist.